Merci Claire Boutoulot-Bretonnière. On va écouter à présent une autre neurologue et qui travaille également au Centre de mémoire de Nantes. J'invite Laura Couloum à me rejoindre sur scène et vous allez parler du diagnostic précoce. Il est important de diagnostiquer au plus tôt la maladie pour tarder et freiner l'évolution de la maladie. Alors, quels sont les enjeux de ce diagnostic précoce? Comment poser un diagnostic? La réponse avec vous, Laura Couloum. À tout à l'heure.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à la Fondation Recherche Alzheimer et à Claire de m'avoir proposé de discuter avec vous du sujet important du diagnostic précoce dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, en brève introduction, ça fait parfaitement la transition avec ce que disait Claire, c'est qu'en fait, on sait que la maladie, ça vous le savez peut-être probablement, les premières lésions au niveau cérébral, les premières anomalies de protéines à l'étage cérébral, elles surviennent des années, voire des dizaines d'années avant l'apparition de symptômes cognitifs, avant les premières pertes de mémoire. Et c'est probablement à ce moment-là qu'il faudrait agir dans le cadre de toutes les perspectives thérapeutiques dont Claire a pu parler. Et c'est donc que des dizaines d'années après que les premiers symptômes arrivent, puis la perte d'autonomie. Donc, pourquoi, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt de poser le diagnostic de manière précoce au cours de la maladie? Donc, poser le diagnostic déjà tout court. Pourquoi poser le diagnostic tout court? Ça permet d'affirmer la pathologie Alzheimer et surtout d'écarter d'autres diagnostics, d'autres maladies qui peuvent parfois mimer une maladie d'Alzheimer. Il y a d'autres maladies qui peuvent donner des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, et c'est important d'avoir un diagnostic étiologique précis pour adapter la prise en charge. Il y a aussi des pathologies parfois qui peuvent mimer une maladie d'Alzheimer et qui nécessiteraient un traitement curatif. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'en faire le bilan et de ne pas négliger une plainte de la mémoire. Donc, parmi ces pathologies, on a plein, certaines qui sont aussi des maladies neurodégénératives, mais pas que, aussi des maladies inflammatoires ou des maladies tumorales ou des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux, par exemple. Donc, pourquoi poser le diagnostic précocement? Effectivement, de manière peut-être parfois un petit peu contre-intuitive, mais l'annonce d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer, finalement, assez souvent, permet au moins une part de soulagement chez le patient et la famille par une déculpabilisation, en fait, de pouvoir dire c'est la maladie, c'est pas de votre faute, une déculpabilisation qui est importante et qui permet ensuite d'entamer une prise en charge sereinement. Pourquoi tôt, notamment pourquoi avant que les troubles cognitifs soient importants? Ça permet au patient de prendre des décisions pour lui-même, prendre ses dispositions pour l'avenir, de pouvoir faire des choix concernant son avenir de manière plus éclairée, par exemple des dispositions pour éventuellement des mandats de protection, des protections juridiques, etc., les lieux de vie, toutes ces décisions qui le concernent, du coup, peuvent être réfléchies de manière un petit peu plus sereine avant que les difficultés soient importantes. C'est pour ça que c'est important de faire le diagnostic au bon moment. Donc, il y a tout un parcours diagnostique qui comprend le médecin généraliste, puis les consultations mémoire, les neurologues ou les gériatres. Et c'est évidemment pas parce qu'on pose le diagnostic plus tôt que la maladie va évoluer plus vite. Ça peut paraître évident, mais c'est important de le dire. Et chez des patients pour qui on va poser le diagnostic tôt, chaque patient est différent. Ils peuvent voir leurs difficultés évoluer très lentement, voire rester stables pendant de nombreuses années. Donc, ça permettra effectivement, au moment du diagnostic, de pouvoir mettre en place un plan d'aide et de soins de manière personnalisée, c'est-à-dire adapté au niveau d'autonomie, adapté aux difficultés du patient. Donc, ça comprend la prise en charge thérapeutique médicamenteuse et non médicamenteuse, donc les traitements qui sont disponibles actuellement et évidemment la recherche dont on va reparler un petit peu. Ça permet de mettre en place une prévention, mais ça, Claire en a parlé aussi, tout ce qui est prévention des facteurs de risque cardiovasculaire, stimulation de la mémoire avec la mise en place aussi d'orthophonie, etc., qui permet de prévenir l'aggravation. Dans certains cas, et ça, c'est pas valable pour tous, mais notamment quand le début des troubles est survenu assez tôt, il peut y avoir parfois une indication à proposer une recherche génétique. Et donc ça, effectivement, la recherche génétique, on peut la proposer que si on a posé le diagnostic. Et elle peut avoir un impact pour le patient et puis pour la descendance aussi. Et donc, toute cette prise en charge-là qui peut être débutée au moment du diagnostic, c'est toute une prise en charge coordonnée, à la fois médicale, psychologique, sociale et environnementale. Cette prise en charge, elle est super importante pour le patient, mais aussi pour la famille et pour les aidants. Donc, la prise en charge environnementale qui peut être débutée, elle va permettre de maintenir au maximum l'autonomie et de pallier autant que possible aux difficultés. Et alors, cette prise en charge, elle peut être débutée tôt et elle est adaptée en fait, au niveau de difficulté. Elle permet de maintenir l'intégration sociale du patient et de l'aidant, de sécuriser le domicile. Tout ça peut être le rôle notamment des équipes spécialisées Alzheimer, des ESA, avec l'ergothérapie. Et après, en dehors de strictement l'environnement, il y a aussi les autres risques, la gestion des traitements avec, par exemple, des aides infirmières, les risques de la conduite automobile, la gestion des finances avec les mandats de protection, etc. Cette prise en charge, elle est adaptée au profil du patient et notamment, elle est vraiment différente selon l'âge du patient. Il y a une particularité chez les patients jeunes. Donc pour nous, les patients jeunes, c'est les patients qui débutent des symptômes avant 65 ans. Sur le plan social, c'est plutôt en général avant 60 ans que la différence est faite. Et effectivement, ce n'est absolument pas les mêmes problématiques, puisque c'est des patients qui vont souvent être en activité professionnelle, dont les aidants sont aussi souvent, quand c'est les conjoints notamment, en activité professionnelle. Ça ne va pas être les mêmes aides sociales. Il est important de faire un dossier auprès de la MDPH, notamment avant 60 ans. Et donc, de poser le diagnostic tôt, ça permet d'anticiper toutes ces démarches-là et de pas traîner à pouvoir mettre en place les aides qui seraient adéquates. Ce n'est pas exactement la même chose pour des patients dont les troubles débutent après 65 ans, un peu plus âgés, où ça ne va pas être les mêmes demandes d'aide et pas non plus les mêmes démarches. Donc pour tout ça, il y a effectivement des aides, notamment les dispositifs d'appui de coordination, etc., qui, les clics au niveau des mairies qui peuvent aider à coordonner ces mises en place d'aide. Pourquoi poser le diagnostic de manière précoce ? Ça, Claire, on a aussi... parler, c'est effectivement pour pouvoir participer aux essais thérapeutiques, c'est-à-dire que la plupart des essais thérapeutiques aujourd'hui, et notamment dans les thérapies on dit disease modifying, c'est-à-dire les thérapies qui jouent vraiment sur les protéines dont on sait qu'elles participent au développement de la maladie, ces thérapeutiques-là, c'est seulement les patients qui présentent peu de troubles, peu de symptômes, peu de gènes, qui peuvent y participer actuellement. Et donc, c'est pour ça que de poser le diagnostic tôt, si on dézoome un petit peu à une échelle plus collective, c'est probablement ça qui permettra d'avancer sur le plan thérapeutique à plus grande échelle. Ensuite, pourquoi est-ce que le diagnostic, il n'est pas toujours posé précocement ? Et donc, comment faire pour améliorer le fait de poser le diagnostic tôt ? Effectivement, on sait qu'il y a... des freins qui sont identifiés au fait de poser le diagnostic précocement, on va y revenir. Des freins qui sont liés à la perception de la maladie, parfois aux patients ou à l'entourage, ou même parfois au corps médical. Il y a, pour poser le diagnostic, probablement aussi besoin de réfléchir à comment améliorer la filière diagnostique, réduire les délais, comment on peut optimiser le parcours diagnostique, en fait. Et enfin, d'un point de vue plus technique, comment est-ce qu'on peut faciliter le diagnostic précoce, c'est-à-dire quels sont les outils à l'heure actuelle et à l'avenir pour pouvoir poser plus facilement et plus précocement un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc les freins, on les connaît effectivement, il existe un certain fatalisme vis-à-vis des troubles de mémoire et de se dire, de toute façon, c'est comme ça, il y a des difficultés de mémoire, ça ne changera rien, il n'y a pas de traitement curatif, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traitement curatif aujourd'hui qu'il n'y a rien à faire, loin de là, et ça, on en a un petit peu discuté. Le fait que ce soit un diagnostic qui est difficile à accepter pour le patient, pour l'entourage, la peur aussi souvent de la stigmatisation ou que le regard des proches change. Et donc tout ça, je pense que c'est... C'est aussi en communiquant, en informant, en discutant que ces freins-là peuvent petit à petit évoluer et être levés. En pratique, qui peut consulter pour une plainte, suspicion de, enfin une plainte de la mémoire. Effectivement, tout patient ou entourage hein, qui constate que un proche a des difficultés de mémoire, ou alors parfois, parce que ça peut être trompeur initialement, ça peut se manifester plutôt par des difficultés d'humeur, le fait d'avoir une tristesse ou un syndrome dépressif, c'est parfois assez trompeur, des changements de comportement ou une perte d'autonomie ou un isolement social progressif. Tout ça, c'est des signes d'alerte qui doivent t'amener à consulter. Souvent, en premier lieu, le médecin généraliste qui pourra permettre d'orienter un petit peu, faire un dépistage et, si nécessaire, avoir recours à un spécialiste neurologue ou gériatre. Et c'est quelque chose qui peut générer de la souffrance morale, un retentissement sur la TMI. Et donc, c'est important de savoir que vous pouvez être entendu en consultation pour ce genre de plainte. Il y a d'ailleurs des outils maintenant qui existent. On sait que les consultations de médecine générale, malheureusement, le temps est parfois assez court, que les médecins ont peu de temps parce qu'ils ont beaucoup de demandes, beaucoup de charges administratives. Mais il y a des choses qui sont mises en place quand même pour que pour des dépistages un petit peu plus rapides et quelques tests de mémoire assez rapides qui peuvent être faits en consultation. Il y a même maintenant des d'outils en ligne avec des dépistages concernant l'autonomie sur plusieurs domaines, en fait, qui sont notamment l'outil ICOP, qui permet tous les 4 ou 6 mois de refaire un bilan d'autonomie. L'idée est de prendre en charge le plus tôt possible la perte d'autonomie. Ensuite, après ce dépistage, c'est auprès des centres mémoire ou des neurologues en ville qui parfois nous adressent les patients aussi. Donc avec un maillage qui est déjà assez important, mais qui est forcément perfectible et avec des moyens qu'on espère qu'ils augmenteront au fur et à mesure du temps pour essayer de prendre en charge au mieux tous ces patients. Ensuite, comment poser le diagnostic précocement ? Donc, aujourd'hui, la démarche diagnostique, elle dépend aussi un petit peu de la présentation clinique, de l'âge du patient. Il y a notamment, dans certains cas, une ponction lombaire qui est proposée pour pouvoir doser les protéines amyloïdes et tau, dont Claire parlait, qui nous permettent d'affirmer le diagnostic, qui reste toujours un diagnostic de probabilité, mais les biomarqueurs du kit céphalo-rachidien, on sait qu'ils sont fiables. Il reste des cas quand même, où, malgré la ponction lombaire, ou des cas où la ponction lombaire n'est pas possible, où on reste, nous, avec un certain doute diagnostique. Et donc, c'est important de développer le plus d'outils possible pour pouvoir affiner au mieux le diagnostic dans la perspective des thérapeutiques spécifiques à venir. Et donc, dans ce cadre-là, il y a notamment le PET amyloïde, là, donc, qui est disponible depuis 2022 à peu près, et qui nous permet, nous, de rattraper un petit peu des cas difficiles, des cas de diagnostic incertains, et donc qui est un outil aussi pour la recherche qui est très important. Après, la grosse actualité en termes de diagnostic précoce, c'est surtout les biomarqueurs sanguins, parce que comme je vous disais, effectivement, là, actuellement, pour doser les protéines, c'est dans le liquide céphalo-rachidien, donc c'est une ponction lombaire, c'est une piqûre au niveau du dos. Ça reste un geste qui est un petit peu invasif et qui prend un peu plus de temps à organiser qu'une simple prise de sang. Et donc, vraiment, les biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui est assez prometteur pour à la fois révolutionner le diagnostic et le pronostic, de permettre de poser le diagnostic assez tôt. Une recherche qui est développée en parallèle des nouvelles thérapeutiques anti-amyloïdes, anti-tau. Ça nécessite encore des études de grande envergure pour pouvoir les confirmer. Mais il y a déjà des essais qui ont été faits et qui sont très prometteurs. Donc, premier essai, là, en 2022, qui avait identifié des protéines, notamment les protéines amyloïdes et les protéines tau, et par une combinaison de marqueurs, montrait que finalement, les patients qui avaient ces marqueurs sanguins-là, selon certains taux, avait aussi des anomalies au niveau du PET amyloïde et donc il y avait une corrélation qui était faite. Et puis ils ont fait un essai un petit peu plus important cette année où ils ont réussi vraiment à combiner une protéine tau, on appelle la 217, qui est phosphorylée à un endroit précis, combinée avec les marqueurs amyloïdes. Et tout ça, en combinant ces différents marqueurs-là, se sont rendu compte que quand les patients, au niveau de leur prise de sang, avaient les deux marqueurs positif, et ben ils avaient, alors même qu'ils n'avaient pas encore de symptômes, et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans cette étude, c'est des patients qui n'avaient pas du tout de symptômes de mémoire, pas du tout de plainte cognitive, et bah c'était quand même corrélé à des anomalies au niveau du PET amyloïde cérébral, et que ces anomalies du PET amyloïde cérébral, quand on le répétait au fur et à mesure du temps, avaient tendance à s'aggraver. Donc ça confirmait qu'on était bien dans le cas d'une pathologie amyloïde évolutive. Donc la perspective derrière ça, c'est effectivement de pouvoir peut-être à l'avenir, alors il faut encore des études plus larges, mais par une prise de sang relativement simple, permettre d'identifier les patients qui sont à risque d'avoir une pathologie amyloïde évolutive et donc chez qui on pourrait peut-être proposer des traitements de prévention, et cette fois de prévention primaire avant même que les difficultés s'installent. Bon, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt de porter le diagnostic de manière précoce, à la fois à l'échelle individuelle et collective en fait, pour adapter au mieux la prise en charge, confirmer le diagnostic, pas passer à côté d'un autre diagnostic aussi, adapter la prise en charge, qu'elle soit médicamenteuse ou pas, proposer un plan d'aide adapté pour le patient et puis pour les aidants aussi. Et même s'il n'y a pas de traitement curatif à l'heure actuelle, les choses vont peut-être évoluer et que c'est peut-être en posant le diagnostic de plus en plus tôt qu'on permettra d'ouvrir la voie à des thérapies de prévention primaire. Je vous remercie pour votre attention.